إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم إذن. حاضر معنا كما قلت لكم في الاستوديو ممثل بنك الأوروبي الاستثمار سيد جون لوك ريفيرو، مدير مكتب بنك الأوروبي الاستثمار بتونس. بونجور.
Bonjour Vassim, merci pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté. Alors c'est bien de commencer avec des bonnes nouvelles, enfin ça vaut ce que ça vaut, on va voir comment tout ça va évoluer. On va continuer probablement avec de bonnes nouvelles avec la BEI, mais avant d'arriver là, peut-être en 30 secondes, qu'est-ce que la BEI? Est-ce que la BEI fonctionne, travaille principalement qu'avec les pays ou est-ce que ça travaille également avec le secteur privé?
Effectivement, la BEI, c'est donc la Banque Européenne d'Investissement. C'est une banque qui est détenue par les États membres de l'Union Européenne et qui finance des projets d'investissement. Ces projets d'investissement, ils sont essentiellement publics. Donc c'est à peu près 2/3 de notre portefeuille est avec le secteur public. Mais il y a 1/3 important qui est avec le secteur privé également. Donc on est une banque qui finance des projets d'intérêt public, voilà. Mais aussi des projets privés de développement des entreprises tunisiennes.
Alors, les engagements de la BEI en Tunisie aujourd'hui?
Alors, on est présent depuis environ 40 ans en Tunisie. Donc, on n'est pas arrivé hier et on a accompagné le pays à travers toutes les phases de développement économique et tous les régimes politiques, je dirais. L'engagement de la BEI à ce jour, c'est d'environ 3 milliards d'euros. Donc, c'est un montant relativement important, c'est presque 10% du PIB.
En 40 ans ou en ce moment actuellement?
En ce moment. Sur les 40 ans, on a signé un peu plus de 6 milliards.
6 milliards.
Mais en ce moment, on a 3 milliards d'euros de prêts signés. Si je peux juste vous donner un petit aperçu des secteurs dans lesquels on intervient. Le premier secteur, ça touche toutes les infrastructures qui visent à améliorer le quotidien des Tunisiennes et des Tunisiens. Qu'est-ce que je veux dire par là? On parle de la santé, on parle de l'éducation, on parle de l'aménagement urbain, on parle des transports. Juste pour vous donner un ou deux exemples de ce qu'on fait pour améliorer la qualité de vie des Tunisiens, on a un vaste programme de rénovation et de construction d'écoles à travers tout le pays. Que nous finançons avec l'Union européenne et avec la Banque allemande de développement. Il s'agit de rénover quasiment 1/3 des établissements secondaires de Tunisie, à travers tout le pays, dans tous les gouvernorats, et de construire un peu plus d'une 50aine de nouveaux établissements. Pourquoi ? Pour créer de la place pour les élèves qui sont dans des classes surchargées, pour améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves. On fait des choses très, très concrètes. On isole les classes, on change les fenêtres, on crée des sanitaires, on crée des cantines, on crée des laboratoires pour les cours de sciences naturelles. Donc ce sont des choses qui vraiment au quotidien vont changer la vie des profs et des élèves. Même chose en matière d'aménagement urbain, par exemple. On travaille beaucoup avec le ministère de l'Équipement et de l'Habitat et avec la rue pour rénover les quartiers populaires. Alors là encore, on fait des choses très concrètes. On rénove la voirie, on fait en sorte que les maisons soient bien connectées au réseau, à l'électricité. On crée des espaces communs, des gymnases, des salles polyvalentes. Donc ce sont des choses, peut-être les Tunisiens ne savent pas que la BEI et d'autres bailleurs sont derrière, mais qui ont vraiment un impact concret sur les Tunisiens.
Ça, donc, c'est un petit peu les secteurs sur lesquels vous intervenez. On parlait aussi enfin, de l'engagement. Vous m'avez dit 3 milliards de financement signé. Et j'aime bien cette nuance, si j'ai bien détecté. Donc, signé, ça ne veut pas dire que c'est décaissé.
Ça ne veut pas dire que c'est décaissé. Effectivement, sur les 3 milliards signés, il y a à peu près 2 milliards d'euros qui sont productifs, je dirais, qui sont déjà décaissés.
D'accord.
Mais il reste 1 milliard sur lesquels on va travailler.
C'est-à-dire, on parle de dollars, on est bien d'accord?
D'euros.
Un petit peu mieux. Un milliard d'euros signés, mais pas décaissés. Pourquoi ça bloque?
Alors, pourquoi ça bloque? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça bloque. Alors déjà, sur le milliard, il y a certains prêts qui ont été signés récemment. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas entièrement décaissés. On est une institution de financement à long terme. On a des périodes de décaissement qui sont relativement longues, de 4, 5, voire plus, 5 ans. Donc il est tout à fait normal que sur les 3 milliards de prêts signés, une partie ne soit pas encore décaissée. Ça fait partie de la vie classique du projet.
D'accord.
Ensuite, il y a effectivement un certain nombre de cas qui sont plus problématiques. Si on veut être complètement honnête, je pense que la responsabilité de cette situation, elle est partagée entre les gouvernants et les bailleurs. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé entre 2014 et 2016, on a signé énormément de prêts. Mais ce sont ces prêts qui ne sont pas encore décaissés, pour des projets qui n'étaient pas tout à fait matures. Je pense que les gouvernants de l'époque étaient évidemment très intéressés par la manne qui était disponible auprès des différents bailleurs, et chacun des bailleurs voulait accompagner la Tunisie dans sa transition démocratique et économique. Donc notamment à l'occasion de cette conférence qui a eu lieu en 2016 de Tunisie 2020, chaque bailleur est arrivé avec des engagements assez importants, avec des promesses de soutien très fortes, et on a probablement à ce moment-là signé pour des effets d'annonce, des projets qui n'étaient pas à un stade suffisamment avancé pour être signés. Et donc maintenant, on paye un petit peu le prix de ces signatures anticipées. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que bien qu'il y ait eu une sorte de continuité de l'État, évidemment depuis 2011, il y a eu une, je dirais, une discontinuité de l'administration. On a vu effectivement un certain nombre de changements dans l'administration, une succession de ministres, succession de hauts cadres dans l'administration. Et quand on a une situation un petit peu d'instabilité, de discontinuité comme ça, ça ne facilite pas le processus décisionnel. Évidemment, on a besoin de prendre des décisions pour nommer les bonnes personnes aux bonnes places, pour arbitrer entre les différentes options. Et quand on n'a pas de décideur, ça n'avance pas. Il y a une situation de blocage. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, effectivement, on travaille avec les autres institutions sur ces questions, et Tony de la Banque mondiale, qui était là la semaine dernière, l'a très bien dit. Les bailleurs ont des standards qui sont parfois un petit peu plus contraignants, un petit peu plus exigeants que les standards tunisiens. Par exemple, en matière de passation de marché public, en matière d'expropriation, en matière sociale et environnementale. La BEI arrive avec des standards qui sont un petit peu stricts. Il est parfois difficile pour les promoteurs publics d'appliquer ces standards sans être accompagnés sur la durée. Surtout quand il y a des différences entre la loi tunisienne et les standards BEI. Je vais vous donner un exemple. En matière d'expropriation, par exemple, la BEI exige que tous les propriétaires soient indemnisés par l'État, y compris les propriétaires qui n'ont pas de titre foncier. On sait bien qu'en Tunisie, il y a eu beaucoup de constructions anarchiques. Tout le monde n'a pas un titre foncier qui retrace la propriété du terrain. Nous, on exige que tous les propriétaires, qu'ils aient un titre ou pas, soient indemnisés dans les mêmes conditions. Pour certains projets, ça n'avait pas été fait. Donc on est obligé de recommencer les procédures parce qu'évidemment, on ne décaisse pas tant que les conditions de versement ne sont pas remplies. Donc ça explique qu'on ait pris...
Est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples de projets pour lesquels il existe les financements aujourd'hui et qui sont bloqués et qui peuvent vraiment être importants pour l'infrastructure ou autre, s'il y a un ou deux exemples?
Oui, bien sûr. En fait, il y en a beaucoup, mais il y a des projets qui sont emblématiques. Le pont de Bizerte.
Le pont de Bizerte.
Alors ça c'en est un. À mon avis, il fait partie de la première catégorie de projets. C'est-à-dire qu'on a signé le contrat au moment où le pont n'était encore qu'un concept. Il a fallu faire toutes les études de préparation, études de faisabilité, études de design, ensuite procéder à la sécurisation du foncier avec les expropriations. Tout ça, ça aurait pu être fait avant. Les appels d'offres pour le pont de Bizerte ont été lancés en début d'année et on espère que les travaux vont commencer début 2021. Le prêt pour le pont de Bizerte, on l'a signé, si ma mémoire est bonne, en 2013, je crois. Donc vous voyez, il y a un décalage. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a des projets qui ont pris du retard. Je pense notamment au projet RFR. Pour différentes raisons. Les entreprises sélectionnées dans un premier temps ont quitté le chantier, certaines ont fait faillite, d'autres n'ont pas délivré. Donc on est obligé de recommencer tout le processus. Donc ça, ce sont des projets qui ont pris énormément de retard, pour lesquels on est toujours en train de décaisser. Je dirais que pour tous ces projets, on essaye de faire preuve, dans la mesure du possible, de flexibilité. C'est-à-dire qu'on a bien conscience de la réalité du terrain. On a bien conscience qu'il y a sur le terrain des entreprises qui ont besoin d'être payées pour pouvoir elles-mêmes continuer les travaux et payer leurs employés. Si les bailleurs ne décaissent pas parce que les conditions ne sont pas satisfaites, alors on contribue en quelque sorte au blocage de la situation. Donc on a une approche très pragmatique, et je peux vous dire que moi je ne ménage pas mes efforts pour convaincre nos instances à Luxembourg De continuer à financer et à décaisser ses projets, alors même que toutes les conditions ne sont pas réalisées. Mais là, on arrive à un point où, effectivement, je dirais, la patience des uns et des autres a atteint sa limite, et il va falloir, effectivement, qu'on voit un certain nombre de progrès, notamment en matière, je dirais, sociale, assez important pour pouvoir continuer à avancer.
Sinon, quel est le risque? C'est que l'argent soit alloué pour d'autres, enfin que vous suspendiez votre
Oui,
financement.
ça peut arriver, ça peut arriver. On a très peu d'exemples de ce type, mais par exemple, juste pour citer un exemple qui est parmi d'autres, avec le groupe chimique tunisien, effectivement, on a fini par perdre patience dans la mesure où un certain nombre d'investissements qui étaient supposés mettre à niveau le groupe en matière environnementale n'ont pas été effectués, alors même que le prêt avait été signé il y a plus d'une dizaine d'années. On a fini par annuler le solde non versé. Donc ça, c'est préjudiciable parce qu'effectivement,
Bien sûr.
le projet n'est pas
N'est
réalisé
pas
et ce n'est
réalisé.
pas l'objectif. Notre objectif, c'est que les projets soient réalisés.
Alors, pour terminer rapidement, nous sommes dans un contexte difficile, particulièrement difficile, un contexte sanitaire, et c'est normal qu'on consacre un peu le tiers, au moins au secteur privé. C'est comme votre portefeuille aujourd'hui, les engagements de la BEI, le tiers de vos opérations sont avec le privé. Alors, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour le privé, pour soutenir les PME, les entreprises, les groupes pendant cette crise?
Alors, il y en a. Déjà, on soutient les entreprises tunisiennes directement, c'est-à-dire qu'on peut faire des prêts directs aux entreprises tunisiennes pour les accompagner dans leur
Quels sont les
développement.
tickets, entre guillemets, enfin les tickets
Je dirais que c'est minimum 15 millions d'euros. Alors,
minimum,
c'est
d'accord.
effectivement des tickets relativement importants. Il y a quelques opérations. Par exemple, on a signé il y a quelques temps avec OneTech pour accompagner le groupe dans son développement dans les filières câbles et mécatroniques. Donc ça, c'était un très beau projet qui a permis de créer un peu plus de 700 emplois. Donc, même quand on travaille avec le secteur privé, effectivement, il y a un impact public, en quelque sorte, puisqu'on crée des emplois. On crée de la richesse, du PIB, et on crée des recettes fiscales aussi pour l'État. Donc c'est gagnant-gagnant. Pour les PME, on a effectivement tout un tas de programmes à travers des intermédiaires financiers, que ce soit des banques ou des fonds d'investissement. Vous savez que les PME, elles manquent de financement, c'est certain, mais elles manquent aussi de fonds propres. Donc on essaye de travailler avec les fonds d'investissement qui sont installés ici en Tunisie, mais aussi dans la région, pour pouvoir accompagner les entreprises tunisiennes dans leurs besoins de fonds propres. Donc ça, c'est une activité qu'on a commencée il y a très longtemps et on la renforce. J'espère continuer à accompagner certains groupes comme Tuninvest, Africa Invest l'année prochaine. On touche aussi les micro-entrepreneurs à travers les institutions de microfinance. On a signé l'année dernière un prêt de 25 millions de dinars avec Enda. Donc là aussi, c'est vraiment pour toucher le tissu économique local, les femmes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs dans des régions un
Donc
petit
c'est
peu
possible de
rurales.
prêter moins de 15 millions d'euros, en fin de
Donc à
compte.
travers ces institutions-là,
D'accord.
on arrive à des tickets qui sont de l'ordre de quelques milliers de dinars. Donc on arrive à couvrir tout le spectre, effectivement, du tissu économique.
Donc financer par exemple un centre de formation continue, c'est pas forcément enfin dans vos priorités ou dans vos
Ça l'est si
ça
c'est
c'est une question à
productif.
l'auditeur.
C'est-à-dire que nous ne finançons que des projets d'investissement productifs.
Tout à
Nous, on
fait.
ne fait pas d'appui budgétaire, on ne fait pas de subvention, on ne finance que des projets dont la rentabilité économique et financière est certaine. C'est-à-dire qu'on fait une analyse très, très, très poussée de cette rentabilité, on regarde les impacts sociaux et environnementaux, mais on ne va pas financer des projets qui ne génèrent pas de
Très bien.
rentabilité économique, ce qui est différent de la rentabilité financière. Et c'est pour ça
Financière.
que la dette auprès de la BEI, c'est une dette en quelque sorte productive. Ce n'est pas une dette de fonctionnement, c'est une dette d'investissement. Tous les actifs qui sont financés par la BEI sont supposés produire un retour sur cet
Tout
investissement.
à
Et
fait.
donc, c'est une décision de gestion relativement saine de s'endetter pour ce genre d'investissement.
À des taux intéressants.
À des taux très intéressants, on est de l'ordre de 1 ou 1,5%. Avec la
1,5.
Sonède, on a signé il y a 3 semaines. C'est une opération sur 30 ans, à un taux effectivement qui devrait avoisiner les 1 ou 1,5%. Donc,
Quel est le montant? Justement.
alors pour la
Je vois
Sonède,
ma collègue des news noter. Quel est le montant?
alors pour la Sonède, c'est un cofinancement avec l'Agence française de développement. On a signé 38 millions d'euros
38 millions
pour
d'euros.
améliorer les infrastructures du Grand Tunis
Ça, c'est bien.
pour l'accès à l'eau.
Merci beaucoup. Merci, monsieur Jean-Luc Revero, représentant de la BEI en Tunisie, la Banque européenne d'investissement. C'était votre première interview, mais on sera amené à nous revoir
Avec grand
certainement et
plaisir.
développer
Merci
tout ça.
Vassim pour l'invitation. Bonne journée.
Merci d'avoir accepté. Fassel, tout de suite, ça fait être qu'il a un à la ça sert à ouais, nous à se l'offrir, ben,